Bonjour et bienvenue dans l'émission Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes du monde de l'humour. Et aujourd'hui, on ouvre cet épisode avec un humoriste qui va nous expliquer comment il a créé son premier spectacle.
Blague à part, l'émission qui vous ouvre les portes de l'humour. Vous pourrez découvrir les coulisses du monde de l'humour à travers le regard de professionnels du milieu toutes les deux semaines, le jeudi à 18h sur le 93.9 et en podcast sur le site de radiocampusparis.org.
Et aujourd'hui, en première partie, on va recevoir Antoine Officieux, notre invité qui est humoriste et qui vient de sortir son premier spectacle. Et en deuxième partie, on reste avec lui et nous allons jouer au jeu du petit bac revisité. Et bonjour Antoine.
Bien le bonjour.
Comment ça va?
Eh bien écoute, ça va très bien.
Ça va bien?
Ça va.
Eh bien écoute, tu es humoriste qui joue son premier spectacle à la Comédie de Paris, mais aussi dans toute la France. Ton spectacle s'appelle Autoromance. Tu préviens que ce n'est pas une histoire d'amour dans une voiture, mais que c'est une aventure qui nous rappelle que la personne la plus importante de notre vie, c'est nous-mêmes. Alors on va revenir sur ton spectacle dans quelques instants, mais on va s'intéresser à tes tout débuts. Est-ce que tu as toujours baigné dans le monde du spectacle ou au contraire c'était plus une révélation à l'âge adulte?
Alors, j'ai pas du tout baigné dans le monde du spectacle. C'était un rêve de gosse. De monter sur scène, ça oui, depuis tout petit. Mais ça a été une révélation, enfin une possibilité surtout, grâce aux réseaux sociaux. Parce que je faisais des petites vidéos du coup, je fais toujours des petites vidéos sur Instagram et sur TikTok. Et donc en fait, ça m'a permis d'avoir une communauté et donc d'avoir des gens aussi qui te poussent à te dire « Ok, on aimerait bien te voir en spectacle, etc. » Donc je m'y suis mis et je me suis dit « Ok, enfin je peux réaliser un rêve de gosse ». Et avoir déjà du monde dans la salle, donc c'est quand même génial. C'est-à-dire que je pouvais déjà avoir un public, donc évidemment que ça te motive un peu, parce que la légitimité, elle n'est pas toujours facile à choper, quoi.
Et c'est vraiment quelque chose, tu as commencé l'humour par les réseaux sociaux, en essayant un peu plusieurs types d'humour, ou tu avais déjà une petite idée, ou tu as fait plusieurs comptes
Ça a été, j'ai lancé mon compte perso, et en fait, pendant le confinement. Donc c'était vraiment des blagues de confinés. Voilà, c'était vraiment ça sur... moi, j'étais confiné tout seul. Donc c'était vraiment sur la vie un peu tout seul dans ton appart, à ne pas pouvoir sortir, etc. Donc petit à petit, ça m'a amené sur d'autres blagues de la vie courante, forcément, puisqu'on n'est pas resté confiné non plus. Exactement. Donc à un moment, je me suis dit, ok, donc j'ai commencé à parler par exemple du célibat, j'ai commencé à parler un peu de ce que c'est que vivre seul et puis même d'autres sujets que j'avais en discussion avec mes potes, etc. Et au fur et à mesure, j'ai ouvert. Au départ, c'était peut-être plus... c'est vraiment sur la vie courante, avec des petites blagues. Et après, j'ai commencé petit à petit aussi à avoir mon... Enfin, vraiment à calibrer ce que je voulais vraiment faire et dire aussi sur les réseaux. À savoir aussi un contenu qui était essentiellement positif. Je trouvais que c'était bien de... Alors, on peut faire rire les gens, mais sans aller attaquer qui que ce soit ou autre. Et que je voulais un contenu de plus en plus qui soit déculpabilisant surtout. Que tu vives seul, en couple ou pas, ou que t'es un chat ou un chien ou un machin ou un truc, ou qu'en ce moment ça aille pas, ou que ça aille très bien, ou que t'as l'impression que le monde entier, tu ne le comprends pas, ou voilà. En fait, je voulais blaguer un peu sur ce genre de choses en me disant, ok, les gens sont débordés de contenu négatif sur les réseaux. Donc, je voulais que quand ils voient ma petite pastille, ils se sentent mieux dans leur journée, quoi. Et ça, maintenant, c'est devenu vraiment mon leitmotiv.
Ouais, ok. Un peu comme ton spectacle où tu parles de s'aimer soi-même et il y a toujours dans la vibe très positive.
Exactement. Donc, ça a amené... Forcément, il y a des sujets sur le spectacle qui sont un peu... qui sont en rapport avec ce que je fais sur les réseaux. Après, c'est pas totalement la même chose, pour vous.
Oui, l'humour, alors je vais le voir en janvier, mais je n'ai pas pu le voir encore.
Comment ça, tu ne l'as pas vu?
Je l'ai pas encore vu, je sais, mais j'ai pu te voir un tout petit peu au Ground Control, en vraiment une petite échappée de toi. Donc, est-ce que par la suite, tu as essayé de monter sur scène, de faire du stand-up? Parce que faire des blagues sur la vie un peu quotidienne, c'est vraiment le monde du stand-up. Est-ce que tu t'es essayé aussi au stand-up par la suite?
Moins. En fait, j'ai vraiment, dans le processus, si, je ne sais pas si tu veux qu'on parte sur ça, mais par exemple, dans le processus, c'était... donc, je me suis dit, ok... je veux monter sur scène, mais j'avais plus envie d'écrire un spectacle entier et de monter sur scène avec le spectacle. J'étais moins dans cet univers stand-up de me dire, ok, j'écris des blagues, je vois ce qui fonctionne, du coup je l'ajoute, etc., etc. Moi j'avais mon fil conducteur, je savais ce que je voulais raconter, donc je me suis dit, ok, go pour l'écrire. Donc je me suis pris, comme je bossais aussi à côté, je me suis pris à chaque fois mes semaines de vacances, c'était pour écrire le spectacle. Donc je suis parti d'abord avec des potes en résidence, on s'est fait une résidence artistique, juste par principe de se dire ça y est, on est des artistes. On est parti une semaine dans une maison, il y en a un qui composait de la musique, une qui préparait son expo photo, et moi derrière qui écrivais mon spectacle. Et en fait, à la fin de la semaine, on s'est tous présenté ce qu'on avait fait, etc. Donc c'était trop bien. Et le soir, on buvait du vin aussi, accessoirement. Oui, voilà. Et donc, j'ai avancé comme ça. J'ai écrit le spectacle en 3 grosses semaines d'écriture. Et après, en fait, je suis parti. Donc, à partir de. Donc, j'ai commencé en novembre l'année dernière, jusqu'en, on va dire, février, mars. Ensuite, moi, je m'étais dit, OK, t'as jamais fait de scène. Commence pas à te prendre pour n'importe qui. Tu prends une metteuse en scène. Et avec elle, tu vas bosser. Et tu vas te faire des séances, enfin, voilà, des semaines de résidence. Où, en fait, le but, c'est vraiment que tu. Bah, tu bosses quoi, tu appréhendes la scène, ta voix, la manière de placer les choses, etc. Donc on a bossé ensemble, j'ai pris une metteuse en scène qui est une amie d'amis, qu'on se connaissait pas du tout et on a matché incroyablement, Julie Crantel est incroyable. Donc on a bossé ensemble, elle a vraiment tout... Elle a tout remis en place. Je me suis fait défoncer. Mais c'était vraiment incroyable. Donc, on a bossé vachement le spectacle. Du coup, bah, y a de la réécriture pendant qu'on bossait. Parce qu'il y a des choses qui ne marchaient pas. Tu es toujours en train de te dire, OK, vas-y, attends, je change cette phrase. Celle-là, en fait, je n'aime pas la jouer. Donc, j'enlève, etc. Donc, j'ai retravaillé le texte. Et j'ai joué une toute première fois en juin. J'ai fait une date que j'ai lancée comme ça sur les réseaux où il y avait beaucoup de potes. Et en plus de ça, quelques personnes que je connaissais pas quand même. Tu vois, il devait y avoir peut-être 20 potes sur les 70 et le reste de gens que je connaissais pas. Donc ouais, c'était trop bien. Ouais. Et j'ai joué, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je crois, derrière. Mais c'était génial. J'ai joué au Théâtre Beau. Et c'était la première expérience. Et après, j'ai commencé en septembre. Et vraiment, et donc après, j'ai continué au Théâtre Beau parce que faut savoir aussi que dans l'univers de... du théâtre, quand tu veux du coup répéter et autres, il faut que tu trouves un théâtre où répéter avant de jouer.
Et c'est ça parce que tu t'es entouré d'une metteuse en scène.
Complètement.
Mais est-ce que tu t'es aussi entouré d'un producteur ou productrice ?
Alors non, parce que au départ, je m'étais dit que je voulais, ça c'était sûr. Après, en fait, t'apprends aussi au fur et à mesure comment ça marche. Et donc au départ, j'ai trouvé la salle pour répéter. Ça, c'est grâce au réseau. J'avais demandé parce que j'arrivais pas à en trouver. Parce que, en fait, les gens, ils s'y prennent 6 mois à l'avance pour pouvoir booker quand ils font des répètes. Moi, je m'étais dit qu'en un mois, je pouvais trouver. Faux. Et en fait, c'est Théâtre Beau qui m'a dit, OK, viens répéter. Voilà, donc j'ai loué au départ la salle. Et j'ai rencontré le directeur du Théâtre Beau, Dan Bollender, et qui est quelqu'un d'adorable, mais vraiment qui est incroyable. Pour l'instant, j'ai eu que de la chance. J'ai rencontré que des gens adorables. Et on a vachement parlé. Donc lui, il m'a dit... viens jouer le jeudi, tu fais une sortie de résidence, donc tu bosses une semaine avec ta metteuse en scène et tu joues le soir. Le jeudi soir, je te le laisse et go. Et donc, c'est là où j'ai joué en juin. Et après, il m'a dit, écoute, moi, j'ai vu le spectacle, j'ai trouvé ça bien. Si tu veux être booké en septembre dans la salle, vas-y. Et donc, on a parlé aussi de production, tout ça, parce qu'eux sont producteurs. Et moi, je leur ai dit, pour l'instant, je remplis les salles sur les réseaux, parce qu'avant, tu avais vraiment besoin d'un producteur pour te faire connaître. L'avantage maintenant des réseaux sociaux, c'est que tu peux remplir tes salles par toi-même. Donc le producteur est peut-être moins, pas moins important, ça dépend ce que tu veux. Et puis surtout au niveau des sous, si on parle vraiment des sous, le producteur il se régale souvent.
Il se régale parce qu'au début c'est lui qui a aussi mis tout l'argent au début. Évidemment. Quand il n'y avait pas la salle, il n'était pas rempli. Donc c'est vrai que pour toi il n'y avait pas
Lui prend un risque le producteur au départ, tu vois, parce qu'il se dit ok, c'est lui qui, si la salle elle se remplit pas, il va quand même devoir raquer les locations, les machins, les trucs. Donc moi c'était pas le cas, je me suis dit ok vas-y j'y vais et voilà. Donc on a vachement parlé, par contre Dan et sa femme Sophie ne sont pas devenus mes producteurs, mais ce sont mes diffuseurs. Donc en gros, c'est eux qui gèrent tout ce qui est tourné, de voir les théâtres, etc.
Oui, d'avoir les contacts, de te booker dans d'autres salles en France.
Exactement.
Tu as quand même un diffuseur. Et après, il reste le co-auteur, co-autrice. Parfois, ça arrive que certains comédiens s'entourent. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un ou est-ce que ça ne t'intéressait pas? Et est-ce que ta metteuse en scène a un petit peu participé au texte?
Ouais, ma metteuse en scène a un peu participé au texte parce qu'on l'a retravaillé. Et puis, alors elle n'est pas issue de l'humour du tout au départ. Elle est très théâtre contemporain et puis plus classique. Et donc au départ on a eu un moment de moi j'étais plus dans un truc de je voulais pas que le spectacle ce soit que de l'humour pour le coup, parce qu'il y a pas, enfin tu verras quand tu viendras le voir, il y a pas que des sketchs humoristiques et donc on se retrouvait sur ça, mais l'humour au départ c'était un peu plus compliqué parce que moi je voulais en mettre, elle était là, attends, tu m'as dit que tu voulais pas seulement faire ça, etc. Donc on s'est un peu cherché tous les deux et à un moment on a trouvé vraiment notre harmonie. Et maintenant c'est elle qui parfois me conseille des blagues.
Ah oui,
maintenant, quand je suis avec elle, elle me dit attends mais fais ça comme ça comme ça. Donc oui, elle a participé à l'écriture. J'ai ma manageuse aussi, Fanny, qui elle a participé, enfin voilà, qui me joue, je lui proposais, elle me disait elle ce qu'elle en pensait. Après, j'ai pas pris de co-auteur, on me l'a conseillé. Il y a un producteur qui est venu quand j'ai joué la première date, enfin début septembre, un grand producteur qui est venu et qui m'a défoncé à la sortie du spectacle. Voilà, en me disant moi je serai ton producteur, je casserai tout, j'enlèverai la moitié de ton spectacle, je garderai juste ce truc de la fin et par contre je te prendrai un co-auteur et puis je referai tout parce qu'il faut que tu aies une blague toutes les 10 secondes. Et je lui ai dit, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Oui. C'est pas du stand-up, du coup.
Oui, il veut faire du stand-up pur et dur et complètement. Il te sent intéressé pas. Okay.
Donc je me suis dit, encore une bonne raison d'être son propre producteur. Après, il m'a donné des super conseils, attention, que je garde encore aujourd'hui. Mais par contre, tu sens aussi des gens avec qui tu peux pas bosser dans le milieu, où tu te dis juste, c'est pas grave, mais on n'a pas la même manière de fonctionner, quoi. Par exemple, moi, je serais plus doux. Tu vois, j'ai un spectacle qui parle quand même beaucoup d'empathie. Le gars, il se dit, bonne idée. À la sortie, je vais le défoncer. Il n'a pas compris, il n'a pas écouté le spectacle.
Exactement, mais ça c'est un des... À la fin, je pose toujours la même question sur c'est quoi un conseil qui ne t'a pas aidé, et c'est souvent quelqu'un qui lui a dit quelque chose en disant « faut tout revoir » et en fait c'était exactement ce qu'il ne lui fallait pas pour lui. Et donc oui, toujours fais attention à si c'est utile pour vous ou non, et même si c'est un grand producteur, il fallait quand même avoir la résonance. Je ne sais pas si ça t'a pris quand même 2 jours à dire « attends, peut-être ne te remets pas trop en question ».
Ah ouais, je suis passé par toutes les étapes, parce qu'au départ tu te dis, moi au départ je suis là hermétiquement fermé, en me disant « qu'est-ce qu'il veut lui ?» Tu vois, que, genre, je suis là, je suis tout poreux en sortant de scène en plus, je suis, t'as l'adrénaline qui redescend, etc. Donc tu prends ton cerveau et autres, il prend vachement quoi. Donc quand on t'envoie des compliments, tu les prends à cœur. Quand on te fait des critiques, tu les prends à cœur aussi. Et c'est logique. Mais je trouvais ça, je me suis dit ok, mais je me suis mis en mode écoute, prends quand même ce qu'il te dit, écoute-le. Et après tu feras ton tri le lendemain quoi. Le lendemain, moi je me suis dit il sert à rien. Ma manager m'a dit tu devrais l'écouter quand même un petit peu. Du coup j'étais là, mais quoi, mais tu me dis que machin, qu'il faut tout que je refasse. Elle m'a dit mais non, c'est pas ce que je te dis. Le lendemain après, moi j'ai hésité. Et j'étais là, bah attends, mais en fait il a peut-être raison, faut peut-être que je refasse tout. Et que voilà, et c'est elle qui m'a dit mais non, non, on continue, tu restes, t'as ton truc, t'as ton univers, ton spectacle. Par contre, prends tout ce que... En gros, il faut toujours, dans n'importe quel conseil qu'on te donne, pour moi, tu prends, après l'avoir digéré, tu prends ce qui te semble juste ou important. En gros, à chaque fois, tu vois, on va te dire plein de trucs. Il y a des choses qui seront vraies, mais que tu pourras pas appliquer toi, donc qui ne te servent à rien, clairement, parce que tu veux pas, tu vois. Faire une blague toutes les 10 secondes, c'est vrai, ça marche. Mais c'est pas ce que je veux faire. Donc non, j'ai pas à écouter ce conseil-là, quoi. Par contre, derrière, il m'a conseillé aussi de en rythme, etc., de rebosser des choses, en me disant que parfois là c'était un peu trop bavard, du coup le rythme descendait, et en fait c'était vrai. Et pareil, il m'a conseillé aussi d'autres choses, de taille de salle, de pas aller trop vite, de voilà, où moi je me dépêchais un petit peu tout le temps, et où c'était vrai aussi, il faut prendre son temps, c'est un métier qui prend du temps avant de s'installer et autres. Donc, faut pas être trop pressé.
Oui, c'est intéressant aussi comme conseil, parce qu'il t'a dit de faire des blagues toutes les 10 secondes, mais de quand même prendre du ton temps sur certains passages. Donc, il y avait quand même une variété de conseils.
Oui, c'est ça. Et puis, maintenant, de prendre aussi du temps sur ton évolution de carrière. De pas, il me disait, tout le monde va vouloir venir te booker dans des salles, etc. Pour l'instant, après, c'est ce qu'il me disait, lui, c'est ton spectacle, il est pas prêt, va pas jouer ailleurs. Et donc, j'étais là, bon, ok, bon, bah, je vais faire du rodage. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu prendre aussi, au départ, tu vois, j'avais 5 dates de rodage prévues. Okay. Pour toute la fin d'année, donc c'était pas beaucoup. Oui. Donc là on est passé à 17, donc c'est grâce à ce conseil là aussi que je me suis dit il a raison, faut que je bosse en fait. Ça va pas, tu vois.
Entre le moment où tu as commencé à écrire et le moment où t'es passé sur scène, c'était un an et demi à peu près.
Ouais, c'est ça. Un peu moins parce que j'ai commencé à écrire en novembre et je suis monté sur scène en juin la première fois en gros, et vraiment j'ai commencé vraiment à partir du 10 septembre, donc tu vois 10 mois à peu près entre l'écriture du spectacle et le moment où je suis monté sur scène.
Et au niveau de la metteuse en scène, on a parlé, donc elle t'a un peu amené au niveau du rythme, elle t'a beaucoup changé ton rythme par rapport au début ou pas? Ou c'était plutôt, oui, t'avais ton propre rythme qui était un peu
naturel? Elle avait peur que j'aille vite, parce que sur les vidéos je vais très vite, mais pour moi c'est un autre format, et justement le but de la scène c'était que je puisse prendre mon temps avec les gens, et ça c'était un bonheur de pas avoir juste la minute, tu sais, un peu Instagram, où tu sais que les gens ils vont pas regarder plus, donc t'essayes de balancer un max. Là, je pouvais prendre mon temps, donc j'étais content. Donc ça l'a rassuré, parce qu'elle s'est dit au départ, s'il me fait comme les vidéos pendant une heure, ça va être indigeste. Tu vois,
ça va être squeezy pendant une heure, faut imaginer ça. Oui,
c'est ça, t'es là genre, ouah, je suis sorti, j'en peux plus, j'ai mal à la tête, j'ai trop mal.
Il m'a donné 1200 informations, j'en peux plus.
Donc elle a vachement bossé aussi sur... En fait, elle m'a appris à dire le texte. Et ça, c'était un truc vraiment, tu vois, vraiment t'exprimer. à regarder les gens et à communiquer quelque chose, c'est pas chanter. Elle appelle ça chanter. C'est quand t'es dans ton texte et que, en fait, t'es un peu, tu vois, t'es en confort et tu répètes un peu ton texte, tu dis ton texte et puis c'est tout. Elle, elle m'a vraiment appris à me connecter, à être là, à être au présent parce que c'est ça qui marche. Et en fait, tu t'aperçois que les soirs où tu te dis « Oh, ça a moins bien marché », ton premier réflexe, c'est de dire « Oh, le public était pas chaud ». Puis après, d'un coup, tu te dis « Non, c'est pas vrai. C'est pas le public qui était pas chaud. C'est moi qui n'étais pas vraiment dedans et qui n'étais pas vraiment au présent. Et j'étais un peu, bah, ça t'arrive, tu vois, dans ton cerveau, un peu malade, un peu déconnecté, un peu. Mmh. » Et donc, c'est ces moments-là. Donc, elle m'a appris vachement ça. Elle m'a appris aussi à me poser, à justement, enfin, les moments juste qu'on parlait du rythme. On a rebossé vachement ces rythmes-là. De se dire « Ok, prends ton temps, en fait, sur ça. Par contre, là, accélère, etc. » pour casser les rythmes et pour que justement les gens restent toujours à l'écoute. Voilà.
Pour passer un peu à ton spectacle Autoromance, oui. Donc qui parle de s'aimer soi-même, c'est un sujet qui est très abordé par le développement personnel et je me demandais quelle relation toi t'entretiens avec le développement personnel.
Oh bah on adore, mais je suis moins. Alors je suis pas un fan moi de toutes les lectures de tout ça etc. Je pourrais absolument pas te conseiller un livre qui m'a marqué, qui m'a complètement changé parce que je trouve que les parcours de vie elles se font dans ta tête, tu vois. Enfin, ils se font dans ta tête, pardon. Mais c'est un. En fait, je trouve que la santé mentale, moi, c'est un vrai sujet parce que je trouve qu'on devrait faire plus attention à notre santé mentale et qu'on s'en aperçoit pas forcément toujours. Et c'est toujours quand on est dans le down qu'on se rend compte qu'on en a une. En se disant, je comprends pas. C'est le jour où en fait t'es sous terre que tu te dis. Ah zut, j'ai pas vu, mais je me suis enterré tout seul. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est important. Enfin, voilà, ces sujets de santé mentale. Donc, j'avais ce truc-là. Et comme je te disais aussi, de déculpabiliser les gens et autres. Et en fait, ça a trait au développement personnel. Mais je suis pas coach de vie et c'est pas le but. Et le but, justement, c'est moi, j'avais envie de faire un truc pour le spectacle. C'était, on m'a fait la réflexion et je me suis dit, bah, en fait, c'est fou parce que je l'avais pas en tête, mais c'est exactement ce que je voulais. On m'a dit, j'ai ri pendant 1h10. De choses bienveillantes. Et on m'a dit, ça n'arrive d'habitude, on se moque, on va aller gratiner des gens, on va aller pousser ça. Et j'ai beaucoup de gens même qui adorent justement l'humour qui va être bien trash et autres, qui me disent, bah, c'est la première fois en fait, que je me pose. Et pendant 1 heure, je ris de moi, de tout ça, mais en fait avec des choses qui sont de notre vie, de notre santé, du psy, de choses comme ça, etc. Et alors que pour eux, ils se sont dit, non, moi l'humour c'était, on va clasher telle personne, tel truc et autres. Donc ils étaient super. Enfin, les gens généralement me disent bah c'est un spectacle bienveillant mais drôle, comme si c'était étonnant que ce soit bienveillant et drôle. Mais ce que je comprends, parce que je suis un peu bisounours aussi parfois même dans mes contenus où je me doute bien qu'il y a des gens qui regardent en disant oh, il me saoule lui avec son positif. Là.
Oui, et à l'inverse, je pense qu'on regarde des personnes, on se dit ah, il critique trop, on n'en peut plus.
Exactement, c'est ça. Puis tu peux pas plaire à tout le monde, il y a pas de problème. Mais c'était vraiment ça. Et donc Autoromance, le but c'était vraiment d'aller parler de soi. Du coup, c'est tout le parcours pour s'aimer soi, qui est un parcours qui je pense prend toute ta vie. Tu passes toute ta vie à essayer de t'aimer ou parfois de te supporter, puis parfois tu t'aimes plus du tout. C'est ce moment où tu te regardes dans la glace en te disant « Ah là 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 là, en ce moment-là, on ne peut pas se voir tous les deux, sauf que tu ne peux pas partir de ta propre vie. » Donc, bah, il faut toujours réapprendre à t'aimer, réapprendre à te faire confiance, réapprendre à te regarder avec bonheur et bienveillance, quoi.
Oui, puis se rappeler que si ça fait par exemple 30 ans que tu es avec toi-même, si tu restais 30 ans tout le temps avec quelqu'un d'autre, tu le commencerais à le détester aussi.
Mais tellement. Ça c'est évident. Enfin, c'est la plus grande relation que tu auras jamais de ta vie. Ouais. Et c'est ce que je dis dans le spectacle en disant que bah, on est la personne la plus importante de notre vie. Alors que bon, tu as des enfants et autres, donc tu peux te dire que c'est ces personnes-là. Mais si toi, tu ne vas pas bien, tu ne t'occuperas de personne. Donc même de tes enfants. C'est-à-dire que si tu es mal, bah, ça va se répercuter. Donc voilà. Donc. Aime-toi, sois bien avec toi pour pouvoir être bien aussi avec les autres. Et voilà. Et oui, comme tu dis, on vivra des années avec nous, parfois, évidemment.
On va se supporter.
Bah, parfois, t'as un vieux couple avec toi-même, tu vois. Parfois, t'es là, tu peux plus te supporter, tu te tâches, t'es là, mais voilà, ça y est, tu te tâches tout le temps, putain, t'es chiant.
C'est que des trucs comme
ça. Ouais, c'est ça. C'est le bordel dans ma tête, quoi.
Ça, c'est assez générationnel. Quand on pense plutôt à notre génération, on est plutôt dans s'aimer soi-même et faire attention un peu à notre propre santé mentale. Et est-ce que t'as déjà un peu remarqué dans ton public qui va être plus les retraités plutôt, qui vont moins être de cette génération-là, est-ce que c'est bien reçu ou non? Je m'en rends pas compte, en fait.
J'en ai pas mal, par exemple, sur Instagram ou justement dans les salles, j'en vois aussi des gens qui, c'est pas que des trentenaires ou enfin entre 20 et voilà, ma cible, c'est vraiment 25-35, hein. Mais j'ai des gens plus jeunes et des gens plus vieux aussi. Et c'est plutôt bien pris parce que je pense que déjà, les gens qui regardent mes contenus et qui vont au spectacle, déjà ils adhèrent un peu à ça, donc je pense que voilà, je les ai déjà à moitié convaincus. Et c'est juste bah, par exemple mes parents qui eux voilà, sont des gens super, mais qui auraient dû peut-être aller voir le psy comme à peu près tous nos parents.
Oui, hein.
c'est toujours cette phrase de si nos parents étaient allés voir un psy, on irait peut-être moins en voir nous.
Exactement.
C'est le but, mais c'est juste, je pense que bah, ils s'y font parce qu'ils ont des enfants qui bossent leur santé mentale et qu'ils leur envoient à la gueule quand même.
Ouais.
Il est peut-être temps de se poser deux secondes sur les traumatismes d'enfance. Sachant que c'est des générations qui, je pense aussi, le traumatisme de l'enfance n'était pas du tout le même que le nôtre, parce que c'était une autre époque et voilà. Et eux aussi avaient bah, les traumatismes de leurs parents qui, par contre, là pour le coup, avaient vécu des guerres, des choses comme ça et autres, où le traumatisme, de toute façon, il était là, il était accepté, mais par contre, il n'était pas travaillé non plus. Je pense que toutes ces générations-là, bah, elles font, je pense qu'elles évoluent parce qu'à force d'en parler, c'est ça aussi qui est important, c'est d'en parler, c'est bah, de ramener ta mère au spectacle en te disant « Tiens, viens ». Comme ça, tu vas rigoler. Et à un moment, je te dirais, bah, tu vois, t'as rigolé sur ça. C'est que t'es un peu d'accord. T'es d'accord qu'il faut... tu vois, c'est pas grave d'aller voir le psy, maman. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que les générations au-dessus de nous, bah, elles font le chemin. Il y a plein de choses à enlever.
Oui, c'est pas un obstacle.
Quoi. Non, mais après, c'est aussi... Bah, c'est comme tout, quoi. Il faut déconstruire. Donc, c'est pas évident parce que tous ces sujets-là, même nous, déjà, les trentenaires ou de 20 à 40, bah, on est en train déjà, nous, de bosser dessus. Eux, ils sont passés leur jeunesse sans que ce soit dit, enfin voilà, ou comme quoi c'était pas normal d'avoir des problèmes, enfin aller chez le psy à 20 ans pour eux.
On était fous,
ouais,
littéralement.
Tu devenais un peu taré, quoi. T'étais soit suicidaire, soit en fait, c'est que vraiment, t'étais fou et tu disais n'importe quoi, et t'étais le fou du village qui criait, tu vois, un peu partout, quoi. Alors que non, tu peux avoir besoin du psy, alors que c'est pour des problèmes bah, moindres, ou des traumas qui sont en interne et qui se voient pas, justement. Et je pense que du coup, bah, aujourd'hui, ils sont dans la déconstruction à fond, quoi. Et ça prend du temps de se déconstruire, donc
parce
qu'il faut juste être aussi patient avec eux et de se dire, ok, tu peux pas leur envoyer dans la gueule tout ce que eux n'ont pas eu et que toi, du coup, t'as eu comme information, comme vidéo, comme choses comme ça qui te construisent et qui t'apprennent. Voilà.
Ok. Et pour les auditrices les plus timides, est-ce que c'est un spectacle qui interagit beaucoup avec le public?
Alors, c'est une bonne question. Il y a des moments d'impro. Où j'interagis avec le public, mais qui sont très choisis. Donc en fait, tu es dans ta zone de confort, c'est que tu vas me voir arriver déjà. Et il y a plus de choses en commun, où les gens vont parler tous que toi tout seul. Il y a une personne que je fais monter sur scène, mais que les femmes se rassurent, c'est toujours un homme que je fais monter sur scène, pour une raison particulière. Et après, c'est juste, je sais qui... Enfin, en gros, je vais entendre des choses. Donc, généralement, je choisis une personne qui a crié très, très fort. Parce que du coup, je sais que si elle l'a hurlé
si
et qu'elle a sorti,
qu'elle avait envie de...
c'est qu'en fait, on va pouvoir parler, etc. Mais c'est toujours tout doux. Par exemple, il n'y a pas de... Je me moque jamais ou c'est pas du tout des choses comme ça. C'est vraiment, en fait, quand j'interroge les gens ou quand je parle avec les gens, c'est vraiment pour une raison précise et voilà, donc les gens timides, parce que je pense que les gens timides, il n'y a pas de problème, vous êtes safe, vous inquiétez pas, tout le spectacle c'est pas que des hey, voilà, pas du tout, au contraire, il y en a peut-être, deux choses, sauf si on me donne de l'impro parce que les gens papotent,
ouais.
Parce que maintenant les gens papotent quand même pendant les spectacles. Bah sinon, en gros, je voilà, je suis plutôt...
Vous pouvez venir au premier rang et vous ne vous ferez pas tacler. Vous pourrez voir enfin l'humoriste.
Exactement.
En vrai et beaucoup mieux que tout au fond de la salle.
Exactement.
Ok, parfait. On va passer au dernier. C'est quel conseil ne t'a pas aidé dans ton processus créatif?
Alors, quel conseil ne m'a pas aidé dans mon processus créatif? Bah, y en a pas mal. Non. Qu'est-ce qu'on m'a dit? J'essaie d'en trouver un qui puisse parler aussi à tout le monde, mais... J'essaie de penser à ce producteur-là, mais en fait, il m'a quand même donné des conseils. En fait, je trouve que même quand on te donne un conseil nul, qui ne te sert pas, ça te sert quand même un petit peu, mais qu'est-ce qu'on m'a donné comme conseil? Bah, de changer un peu toi, quoi. D'essayer de... Quand on te dit, ouais, mais tu vois, là, ce qui marche, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, d'être dans une case, forcément. Bah, c'est ce conseil-là de dire, bah, tu vois, un peu le truc de toutes les 10 secondes, etc., la blague. C'est en fait quand on te conseille toujours ce truc de se dire si ça marche, il faut que tu fasses absolument ça. Il y a des choses qui marchent et c'est vrai, si tu les utilises, mais il faut garder ton, ton petit truc, quoi, tu vois, en toi. Et pareil, on m'a dit aussi, ce qu'il faut, c'est que tu fasses la même chose. Bah, ça revient avec la metteuse en scène. Mais c'est pas elle qui m'a donné ce conseil, hein, je vous rassure. Mais on m'avait conseillé en me disant, OK, il faut que tu fasses, faut qu'on retrouve exactement tes vidéos.
Ah oui,
ouais, on m'avait dit, en fait, il faut que tu le rythme et les sujets, etc. Parce que les gens vont venir te voir via les réseaux. Donc, tu dois leur donner ce qu'ils attendent. Là où, pour moi, je pensais que moi, je me suis vraiment dit, bah, je trouve, bah, conseil de merde. Alors, conseil, moi, j'étais pas d'accord. Parce que je me dis, si les gens se déplacent, tu leur proposes autre chose. Sinon, ils ont qu'à rester dans leur salon. Ça leur coûte pas de sous. C'est très bien. En vrai, si je leur propose la même chose, juste transposée, moi en face, qui déblatère insupportable.
Rien pour le prix. Oui, complètement.
Rien du tout. Tu payes, tu te déplaces, tu machin. En plus, en ce moment, il fait moins 15. Donc, quand tu te déplaces au théâtre, moi, je trouve que c'est brave. Enfin,
oui.
Voilà. Donc, au bout d'un moment, donne-leur autre chose, quoi. Donne-leur. Donc, je me suis dit, bah si, en plus, j'ai envie de prendre mon temps pour pouvoir parler des sujets qui m'intéressent, pour pouvoir aller toucher les gens, pour pouvoir avoir des interactions qui sont complètement différentes. Et puis, je voulais montrer une autre partie de moi. Alors, je suis le même. Hein. Pour le coup, mes réseaux, c'est moi dans la vraie vie. Hein. Clairement, c'est ce que je pense, c'est ce machin, c'est les discussions avec mes potes. Il n'y a pas de... Pas tellement, ça me prend pas un temps d'écriture incroyable pour inventer un personnage.
C'est-à-dire que c'est toi-même et donc c'est unique.
C'est ça. Mais donc du coup, je voulais aussi sur scène que ce soit la même chose. Donc aller rigoler, aller être un peu bisounours quand j'ai envie, puis raconter mes trucs et puis prendre mon temps, quoi. Et on m'avait dit, le producteur aussi qui était venu m'avait dit, j'ai pas retrouvé totalement le rythme de tes vidéos.
Mais c'est marrant, le rythme, moi, ça me paraît complètement absurde parce que comme tu l'as dit, on passe des réseaux sociaux à un truc hyper rythmé, hyper rapide, à un spectacle où on se pose dans un spectacle. Oui, d'accord, c'est marrant comme j'aurais pas pensé.
Je pense aussi que y a un aspect du producteur qui est l'argent.
Oui,
qui voit la rentabilité en se disant, OK, si les gens l'aiment sur Instagram, ils l'aimeront quand ils sont sur scène, s'ils retrouvent la même chose. Donc, ils se risquent moins. Donc, on peut remplir. Et donc, les gens retrouvent la même chose. Et donc, je remplis mes salles. Je pense que c'est ça aussi. Là où, j'avoue, moi, il y a des moments où, enfin, voilà, c'est pas que de l'humour, enfin, c'est pas que ça, et j'avais envie de faire un petit spectacle où, quand les gens sortent et me disent, je suis rentré chez moi et en fait, je garde ton spectacle parce que ça me rend heureux, alors qu'en ce moment, rien ne va. Ça, c'est le meilleur compliment. Ça me donne des frissons quand je dis ça. Mais c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Donc, je suis là, c'est ça surtout que j'avais envie. J'avais pas envie de refaire les vidéos. Comme les vidéos vont te toucher à un moment donné, j'avais envie que le spectacle, il reste en toi et que t'en gardes une trace aussi en sortant, quoi.
Merci beaucoup, Antoine, de nous avoir ouvert les portes de ta vision de l'humour. On te retrouve tous les mardis à 19h de janvier à mars à la Comédie de Paris, puis dans une tournée nationale. Tu restes avec nous pour la deuxième partie. Et Antoine est toujours avec nous pour la deuxième partie de cette émission, le Petit Bac revisité. On va jouer au Petit Bac classique, mais avec des catégories inédites, comme le nom d'un slogan d'un lobby qui milite de s'aimer soi-même, ou le titre d'une chanson de Laurent Voulzy. Et ça commence toujours par la même lettre. La grande nouveauté, c'est qu'on peut inventer des réponses tant qu'elles sont drôles. On va choisir au hasard une lettre, je vais lancer l'alphabet dans ma tête, et Antoine, tu me dis stop quand tu le sens.
Ok.
Ok, A.
Stop.
L. Donc c'est la lettre L qu'on va utiliser pour chaque début de nos catégories. Le temps d'écrire nos réponses, on va écouter une petite pause musicale. I swim too quickly. Big waves are hard to jump over. You're not sweet, not sickly. You don't taste like nothing when I'm sober. And I already wanna die. You just make it like 10 times worse. And I heard that you tell the guys I'm the worst. You come round on Monday, and goddamn, you stink like you've missed me. I find it funny. You don't close your eyes when you kiss me. So conceited.
flowers, I gave them to someone else. Told me that you love me, you're just talking to yourself. And I don't wanna know, I don't wanna hear it, that you got themself out. You're so conceited, yeah.
D'écouter Conceited de Lola Young sur Radio Campus Paris. Et on revient donc après cette courte pause musicale pour faire le jeu. Et on a des catégories, je vais juste vous les présenter avant de passer aux réponses. Donc on avait choisi la lettre L. On avait en première catégorie le slogan d'un lobby qui milite de s'aimer soi-même. Le titre d'une chanson de Laurent Voulzy qui parle d'apprendre à s'aimer, le titre d'un livre audio de développement personnel un peu bateau. S'il y avait une journée mondiale de l'autoromance, quelle serait l'activité loufoque de cette journée? Et le nom d'un sport loufoque. Donc on va passer juste à la première catégorie, le slogan d'un lobby qui milite de s'aimer soi-même. T'as trouvé quoi?
Alors, j'ai mis libérer l'amour de soi ou libre, confiant et autoromantique.
Ah, pas mal, j'aime bien le troisième, c'est un peu rythmé et tout, ça marche bien. Moi j'avais juste lâché prise.
Ah oui, très bien, très bien. Oui,
plus important, juste oublier tout. Et j'avais un peu derrière, tu es un peu ton pire ennemi, mais je me suis dit que c'est un peu trop négatif, je fais juste lâcher prise, ça, c'est bien aussi.
Tu es ton pire ennemi, c'est tellement glauque, c'est tellement
temps,
vrai.
C'est tellement vrai.
Oui, c'est vrai.
Passons au suivant, passons suivant.
Tu veux nous en parler.
Et donc ce sera ma psychanalyse en deux heures, bienvenue. Dans le deuxième, le titre d'une chanson de Laurent Voulzy qui parle d'apprendre à s'aimer. Je sais pas si t'as... Alors, tu t'écoutes un peu déjà, Laurent. Moi, j'écoutais vraiment pas beaucoup, mais.
Pas du tout.
Pour moi, j'avoue. Il a une patte un peu.
C'est toujours un peu, tu vois, c'est langoureux, sinon, c'est ça, c'est l'été sur la plage, coucher de soleil, etc.
Exactement.
J'ai mis l'amour, c'est mieux à un, ou l'envie de s'aimer. Mais ça me faisait penser un peu à la chanson L'envie d'aimer.
L'envie
tu vois.
D'aimer. Ouais. Oui, mais il aurait
ce sera
fait
nous
une
des
reprise.
Demain. Mais voilà, exact. Ce sera toi des demain. Ce sera moi des demain, d'ailleurs.
Moi, j'ai mis la vie, la vraie, parce que j'ai pensé à Auchan. Et je me suis dit, ça serait super drôle.
Comment t'es passé de Laurent Voulzy à Auchan?
Parce que je me suis dit, ça serait très drôle que Laurent Voulzy arrive à reprendre le slogan de la vie, la vraie, avec la petite musique d'Auchan,
ça, c'est...
mais avec sa voix. Et que
c'est quand Laurent Voulzy, en ce moment, bah, c'est un peu difficile, les finances. Donc, il vient de faire un partenariat avec Auchan. Et du coup, il a repris le slogan. Bon, bah, au moins, voilà, ce sera mieux pour ses vieux jours.
Oui, mais la retraite, en même temps, les pousse à 65 ans, à un moment donné. Il faut bien trouver l'argent quelque part.
Évidemment, donc la vie, la vraie avec Auchan.
Voilà. Et j'aimerais bien avoir sa voix. Même, je suis sûre, en intelligence artificielle, on pourrait la faire.
Ah, c'est sûr.
Je la ferai peut-être, je la lancerai sur les réseaux sociaux. Le prochain, c'est s'il y avait une journée mondiale de l'autoromance, quelle serait l'activité loufoque de cette journée? Alors, on pense à la Saint-Valentin, on passe toujours un moment avec la personne que l'on aime. Mais alors, le jour de l'autoromance, qu'est-ce qu'on ferait?
Alors, tu m'as dit que le L, je pouvais utiliser le là, le
oui.
Voilà. Donc, j'ai mis la fête du plaisir solitaire. Mais yeah. Alors, attention, plaisir solitaire sous toutes ses formes, bien sûr.
Exactement.
Pas seulement le plaisir solitaire dans la chambre seule, mais aussi de faire tout ce que tu aimes. Genre, tu te fais une journée et tu fais vraiment tout ce que tu adores. Si tu aimes aller au cinéma, puis manger gras, et bah, tu te fais ça. Enfin, voilà, tu peux aller te faire un massage, tu peux aller te faire. Enfin, voilà. Tu te fais vraiment une petite journée juste pour toi et ton petit plaisir.
Ok,
voilà.
Trop bien. Bah, j'ai hâte, n'hésite pas à lancer ça, peut-être à militer, on va faire un truc ensemble.
C'est sûr, je vais faire
ça
un truc, c'est sûr. En le marquant, je me suis dit, je pourrais faire une vidéo sur ça, Saint-Valentin.
Parfait. Et après, moi, j'ai trouvé le lancer de compliments. Je me suis dit, autant le faire, pas juste à soi-même, mais aux autres. D'aller dans la rue, tu fais, j'adore ça, et tout le monde fait juste des compliments, tu vas dans la rue, tu te fais mousser comme ça. Voilà.
Ce serait incroyable. Ouais, mais du coup, même les gens en couple, il faut que tu aies une journée que pour les célibataires ou pour les gens seuls.
Ouais, non, mais non. Même pas en couple, tu
Parce
vois.
Parce qu'à Saint-Valentin, c'est bon, les couples, ils ont déjà leur fête.
Voilà.
Ouais,
on va
c'est
trouver
bon,
notre
canon. Oui, les compliments, on va pas en faire aux gens en couple.
On va mettre, tu sais, comme les bracelets en boîte de nuit, genre les rouges, c'est les partenaires en couple, et on leur fait pas de compliments.
Non, il faut s'aimer soi, que tu sois en couple ou pas.
Mais non, mais moi, c'était vraiment lancer des compliments à tout le monde. Et tu sais que si tu sors dehors, tu vas te faire mousser, ça va être incroyable.
Ce serait fou. Bon, par contre, dans le métro, pendant quand t'es coincé dans le truc, que tout le monde continue à se faire des compliments.
Oui, j'adore ça. Non, vraiment ça. Je vois pas vos chaussures, mais elles ont l'air incroyables.
Ah non, c'est les vôtres qui sont incroyables. Ah, ok, c'est bon. Là.
Je pense qu'on en pourrait plus. Surtout en France, on adore se plaindre. Je pense qu'à un moment donné.
Hein. Mais tu te plaindrais d'avoir des compliments. Tu rentrerais chez toi en te disant tout le monde m'a dit que j'étais beau, que j'étais bien habillé, ça me saoule. Voilà, ça c'est français.
Ça c'est bon. Ok, on retrouve. Ça ne marcherait pas. Dommage, mais c'est pas très grave. On va passer aux prochaines catégories. Le nom d'un sport loufoque.
Alors, j'ai mis la câlinerie.
Oh,
en gros, okay. Tu vois ce que je veux dire. Le but, c'est de te faire le meilleur câlin possible et t'aurais plein de gens comme ça qui seraient tous en face et ils se font que des câlins. Et enfin, t'as un juge. Alors, je sais pas comment on pourrait noter les points. Alors, oui, alors j'ai trouvé le câlin étendre et machin, etc. Mais il faut que le câlin t'amène, toi, des émotions quand tu le regardes, tu vois.
Ah, c'est beau.
Où tu dis, waouh, ce câlin, ça m'a retransporté en enfance. C'était superbe. Voilà.
J'adorerais ça.
Voilà.
Ok. Ça, je pense juste si c'est par exemple dans une maison ou quoi que ce soit et qu'on voit ça et que quelqu'un de l'extérieur le voit.
Très chelou.
Voilà, c'est très chelou. Je pense qu'il faudrait prévenir. Il faudrait que ce soit un peu plus médiatisé parce que sinon on serait juste un peu de peur, un peu une sorte de secte.
C'est important de se faire un petit câlin, un petit bisou.
C'est important.
Trouve. Voilà, les gens se font pas assez de petits bisous eux-mêmes. Tu vois, sur la main comme ça. Hop, le petit bisou. Et ben, je trouve que ça te motive. On fait ça avec des potes, en vrai, premier degré.
Moi, c'est le marrant, c'est l'inverse. Ma mère, quand elle fait un bisou sur sa main, c'est quand elle veut c'est du second degré. Par exemple, elle dit tiens, je vous ai payé le dîner, merci à moi-même.
Tu vois, c'est parce qu'elle se remercie elle-même.
Ouais, mais c'est du second degré.
Ah oui, mais moi, je loue parfois, on est là, oh mon petit père. Alors, on rigole, hein, bien sûr. Mais on est toujours là, mais t'es génial, toi.
Hop, j'aime bien, pour moi c'est du full second degré.
Ah non, moi c'est plus quand en fait t'es là, wow, en ce moment ça va pas. T'es là, allez, mon petit père, t'es super. Tu vois, moi je me la fais la journée du compliment.
Oui, c'est ça.
Mais on a un petit bisou sur la main. Je vous le conseille, cher auditeurice, de vous faire des petits bisous sur la main.
Mon sport loufoque, c'était livret A. C'est un sport d'une vie où tu essayes de constituer une épargne. C'est un sport en soi. Et je pense que ça devrait être mis un peu au goût du jour parce que c'est un vrai sport.
Livret A, c'est vrai, en vrai. Pas pour ta retraite, quoi, que tu n'auras pas. Mais donc c'est important, je suis d'accord, le livret A. Le livret A, c'est pas mal comme sport. Ouais. En vrai, c'est le sport qu'on pratique tous.
Mais au moins, et
tu ne transpires pas. Sauf parfois quand tu vois tes comptes.
Si, c'est ça.
T'as la petite goutte.
Voilà. Et je peux dire que tu flexes après.
Ah, c'est clair. Ouais, c'est clair.
Beaucoup d'argent. Eh bien écoute, merci à toi de t'être confié au micro de Blague à part. On te retrouve tous les mardis à 19h de janvier à mars à la Comédie de Paris, puis dans une tournée nationale. On te retrouve sur Instagram à Antoine Officieux pour un moment de rire et de douceur. Merci à vous, auditeuristes, d'avoir écouté Blague à part. Et malheureusement, c'est la fin, mais on se retrouve toujours dans 2 semaines à 18h sur le 93.9.